C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Imran, je vous souhaite la bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix. Dans notre émission du jour, nous allons parler des data sciences, en quoi consiste cette discipline scientifique, qui sont les personnes qui la pratiquent, comment sont récoltées les données, et à qui servent les données issues de cette recherche. Pour aborder ce thème, nous recevons en studio François Rioux, professeur en informatique au GREC, le laboratoire en sciences du numérique de l'université de Caen. Mais tout de suite, les infos sciences de la semaine. Le flash commence avec une date, le jeudi 5 mai, c'était la semaine dernière, et selon le WWF France et Global Footprint Network, c'était le jour du dépassement en France. Pour rappel, le jour du dépassement, ça désigne une date symbolique à laquelle les Français ont consommé l'intégralité des ressources que la planète peut renouveler en un an en France. Calculée par l'ONG américaine Global Footprint Network, cette date prend en compte l'empreinte écologique des activités humaines, c'est-à-dire les surfaces terrestres et maritimes, nécessaires pour produire les ressources consommées par la population et absorber ses déchets. Cette empreinte est ensuite croisée avec la biocapacité de la Terre, à savoir la capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par l'homme, notamment les gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, cette date est arrivée l'an dernier, le 29 juillet. Les Français consomment donc trop car nous avons 5 mois d'avance. Représentatif de l'impact écologique des humains, le WWF estime qu'on peut faire reculer le jour du dépassement de 25 jours à l'issue du quinquennat qui s'ouvre, à condition de prendre les bonnes décisions. Le mois dernier, la forêt amazonienne a connu une déforestation record. Pour le simple mois d'avril 2022, ce sont 1000 km² de forêt qui ont été détruits, soit l'équivalent de 1400 terrains de football. À titre de comparaison, pour le mois d'avril 2021, 580 km² avaient été détruits. En l'espace d'un an seulement, cette destruction a donc augmenté de 75%. Des chiffres qualifiés de terribles et effrayants par les défenseurs de l'environnement. Certaines personnes, à l'image de Raul Val, le directeur de la justice sociale et environnementale de l'ONG WWF Brésil, mettent en cause la politique gouvernementale menée par le président brésilien Jair Bolsonaro, qui, selon ses dires, pratique l'impunité depuis maintenant 3 ans avec une réduction des actions de contrôle, de fiscalisation et d'évaluation. Ces données sont collectées par DETER, un système de surveillance mis en place par l'Institut National de Recherche Spatiale au Brésil. Ce dernier révèle que les États qui souffrent le plus de ce déboisement massif sont l'Amazonas, le Pará et le Mato Grosso. Une pression qui ne cesse d'augmenter depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro. D'après une étude menée par le laboratoire de recherche et la plateforme de données Map Biomass depuis 2019, les organes gouvernementaux ne sont intervenus qu'auprès de 2,17% des alertes du système d'observation des terres. Pour rappel, la forêt amazonienne, aussi comparée au poumon de la planète, capte environ 118 milliards de tonnes de CO2 par an, et d'après Raul Val, cette forêt ne supportera pas 4 ans de plus avec une telle pression. L'érosion a fait une victime vendredi dernier. Le 6 mai, un mois avant les commémorations du débarquement, la pointe du Hoc s'est effondrée. La pointe du Hoc, c'est cette aiguille de grès de 30 mètres qui surplombe les falaises de Criqueville en Bessin. Lors du débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944, la pointe du Hoc, située entre les plages d'Utah et d'Omaha Beach, a vu les Américains débarquer. En raison de la montée des eaux, les vagues venues de la Manche mangent les terres d'année en année. La falaise a reculé de 60 mètres depuis 1944. Avant la guerre, le sommet de la falaise était couvert de végétation et d'arbustes. Pour installer leurs pièces d'artillerie, les militaires allemands ont mis le sol à nu. Depuis, le site est conservé en l'état. Rien n'arrête l'eau qui s'infiltre dans le sol calcaire. Un énorme pan de l'éperon rocheux qui s'avance dans la mer s'est donc effondré. Ne subsiste qu'une arête. Les éboulis ont déjà été emportés par la mer et les vagues poursuivent leurs assauts. Un jour ou l'autre, la pointe sera à son tour totalement engloutie. Et enfin, toujours autour de l'environnement, hier à Abidjan, dans la capitale de la Côte d'Ivoire, s'est ouvert la COP15. Alors vous n'en avez peut-être pas entendu parler, pourtant cette conférence internationale est une cousine de la COP sur le climat. Organisée par les Nations Unies, cette édition réunira 196 négociateurs étatiques, auxquels se joindront Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, en visioconférence, ainsi que de nombreux dirigeants, des scientifiques ou des membres associatifs. Tous réunis sous le thème intitulé « Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité ». L'objectif sera donc de trouver des moyens de lutte efficace contre la désertification qui affecte 3 milliards d'humains, mais aussi contre la déforestation, l'appauvrissement des terres, la pollution des sols ou le manque d'eau. toutes les décisions adoptées et impulsées par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification serviront à impulser de nouvelles solutions durables pour la restauration des terres. D'après l'ONU, 41% des terres sont dégradées dans le monde. Un exemple parmi tant d'autres qui peut être cité est celui de l'Irak, qui connaît un dérèglement sans précédent avec des tempêtes de sable et la disparition du lac Sawa, désormais asséché.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
À l'heure où Internet et les réseaux sociaux rythment notre vie, nous sommes toujours plus nombreux à les utiliser. Et lorsque l'on se rend sur ces plateformes, applications et sites Internet, nous laissons derrière nous une empreinte numérique remplie de données qui vont être analysées et qui s'avèrent très utiles pour certaines personnes et certaines entreprises. Ce boom de la numérisation a donné naissance à une discipline appelée la data science, autrement dit la science des données. On la retrouve dans de nombreux secteurs sans forcément nous en rendre compte. Elle a pour objectif d'explorer et d'analyser des données brutes laissées sur Internet par exemple pour les transformer en informations très précieuses. Alors pour comprendre le but de cette science des données, nous recevons aujourd'hui François Rioux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en informatique au GREC, le laboratoire en sciences numériques de l'Université de Caen.
Tout à fait.
Est-ce que les data sciences regroupent plusieurs disciplines scientifiques? Est-ce que vous diriez que c'est une pratique interdisciplinaire?
Non, je dirais que c'est plutôt des matheux, des informaticiens, des gens au niveau du marketing. C'est pas très multidisciplinaire. Pas beaucoup de philosophes, de sociologues. Il y a des gens qui s'emparent de ces questions, mais qui sont un peu à la marge et qu'on n'entend pas beaucoup en fait.
Qu'un data scientist, qu'on peut appeler les personnes qui font des data science, les data scientists, de quelle discipline on a besoin pour être data scientist? Quelle formation on reçoit?
C'est essentiellement des informaticiens et des mathématiciens. Donc plutôt des informaticiens, c'est vraiment une science informatique. Bon, on parle de data science, mais dans les années plus lointaines, les années 80, les années 90, c'était des gens qui faisaient des statistiques. On appelle maintenant data science parce qu'il y a des gros volumes de données, il y a des problématiques informatiques liées à la disponibilité et au traitement de la donnée. Donc ça requiert essentiellement des compétences en informatique. Et les informaticiens, pour le dire assez rapidement, c'est des gens qui font des maths appliquées. Donc, informatique, mathématiques, mais plutôt des informaticiens.
Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui se sont mises aux data science?
Après, c'est une technologie, donc il y a tous les gens qui utilisent cette technologie. Donc ça peut être des psychologues, des médecins, des gens, toutes les professions au niveau du marketing, toutes les sociétés ont à valoriser leurs données pour en tirer un maximum de potentiel. Donc c'est plutôt des informaticiens qui vont concevoir les plateformes, utiliser les algorithmes, mais derrière ça va être utilisé à des fins commerciales essentiellement.
Alors justement, avant d'avoir un certain nombre de données à traiter, il faut les extraire. On peut appeler le processus d'extraction des données pour les analyser le data mining.
Alors le data mining, c'est plutôt une approche d'extraction de connaissances à partir des données. Donc la première phase, c'est la collecte des données.
Alors comment on procède à la collecte des données?
En général, quand vous utilisez une application, l'application, elle va collecter des données. Donc ça commence très simplement, par exemple, quand vous naviguez sur Internet ou quand vous utilisez votre smartphone, on peut savoir quelle est la marque de votre smartphone, son modèle, la version du système. Quand vous naviguez sur Internet, quel navigateur vous utilisez, est-ce que vous êtes sous Windows, Apple. Donc déjà, ça, c'est les premières données qu'on collecte. Et puis après, ce sont toutes les données d'usage. Donc, où est-ce que vous cliquez, à quel moment, est-ce que vous avez plutôt de l'appétence pour les boutons quand ils sont rouges ou quand ils sont verts, à quel moment de la journée vous le faites, de quelle région vous êtes. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne les données d'usage des applications numériques au moment où vous utilisez les applications. Voilà. Là, on parle de data parce que on fait l'amalgame entre les données qui sont liées à Internet ou à l'utilisation des applications mobiles, mais on peut collecter aussi beaucoup de données quand vous, par exemple, quand vous êtes dans un magasin, que vous regardez un habit, que vous regardez une affiche, que vous regardez une publicité, que vous prenez un escalier. En fait, toutes les activités humaines peuvent être, quasiment toutes les activités humaines peuvent être numérisées. Ça concerne aussi tous les dispositifs qu'on peut porter, une montre, un GPS, une ceinture qui mesure le nombre de battements par minute du cœur. On est vraiment capable d'acquérir des données à de multiples niveaux. Mais
peut être aussi des données qu'on laisse volontairement sur un site internet.
Oui, quand vous remplissez des formulaires, par exemple. Mais plus simplement, je crois que quand vous utilisez un ordinateur d'une certaine marque, un navigateur d'un certain modèle que vous allez... je crois même qu'on a réalisé des recherches où, par exemple, la façon que vous avez de taper au clavier est liée à votre genre, par exemple. Donc, on n'a pas toujours besoin de demander à l'utilisateur de nous fournir des données, en fait. On peut en acquérir à partir de toutes les traces qu'il peut laisser. Mais souvent, effectivement, les gens sont prêts à tout. Quand vous leur proposez, par exemple, une carte de fidélité, si vous utilisez une scanette, par exemple, dans un magasin, vous avez à remplir un petit peu un formulaire, indiquer où est-ce que vous habitez. Donc ça, déjà, c'est de l'information qui est intéressante sur votre niveau social. Est-ce que vous habitez dans un appartement, dans une maison? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes marié? Tout un tas de choses comme ça, tout un tas de questions auxquelles les gens répondent de façon tout à fait naturelle.
Ça fait à peu près depuis combien de temps qu'on cherche à collecter des données ?
Je dirais que c'est avec l'émergence d'Internet, hein. Donc c'est depuis le début des années 2000, où là on a vu ces pratiques se généraliser et surtout... Alors à l'époque on n'appelait pas ça data science ou big data, on appelait ça l'intelligence économique. Mais c'était lié au fait que, en français, l'intelligence, le mot anglais intelligence, en français, il se traduit par information. Donc, c'était plutôt de l'économie de l'information. Et puis, ça a été traduit en français par intelligence économique, parce qu'évidemment, on est en France, donc on est plus malin que les autres.
Est-ce qu'on peut faire des data science avec des données pas numériques, avec des données purement papier?
Quand vous vous intéressez par exemple au problème de vie privée, à partir du moment où vous stockez des informations même sur papier, que vous faites éventuellement des statistiques à la main avec des tableaux, il y a eu des problèmes par le passé avant l'émergence de l'informatique, de gens dont on sait qu'ils ont collecté des informations sur des personnes, dans des fichiers. Là maintenant, on est dans une ère informatique, mais ça existe depuis tout temps, quoi. Je crois que c'était J. Edgar Hoover, là, le directeur du FBI, qui entretenait un fichier sur tout un tas d'hommes politiques et de présidents des États-Unis et qui faisait pression sur tous ces gens-là grâce aux informations qu'ils détenaient. Et à l'époque, il n'avait pas d'ordinateur, il avait un fichier avec du papier.
Tout à l'heure, j'ai abordé la notion de data mining. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le data mining ?
Alors, le data mining, c'est l'extraction de connaissances à partir des données. Les données en elles-mêmes, elles ne sont pas porteuses de connaissances, mais c'est quand on commence à faire des relations entre les données et quand on commence à essayer de chercher des régularités, c'est-à-dire des phénomènes qui se répètent. Et puis, quand on arrive à trouver des rapports entre des gens, entre des utilisateurs, quand on arrive à les mettre dans des boîtes. Il ne faut pas se mentir, hein, tous ces processus de collecte de données, le but au final, c'est de vous vendre des produits. Hein. Donc on cherche si vous avez une appétence à tel ou tel produit, si vous avez plutôt envie de regarder de la musique, on va chercher ça. Et pour ça, on va utiliser des profils, donc on a des gens dont on sait qu'ils se comportent d'une certaine façon et quand vous arrivez et qu'on ne vous connaît pas, on va essayer de vous classer dans un profil, de trouver avec quel profil vous matchez selon le principe que les amis de mes amis sont mes amis. Donc si on connaît un profil et que vous ressemblez à ce profil, eh bien on va essayer de vous vendre les mêmes choses que le profil précédent à apprécier. Donc la base de notre métier en data science, c'est d'essayer de trouver des similarités entre des choses.
C'est comme un tableau croisé, en fait. On fait répondre les informations les unes avec les autres.
Oui, on cherche des corrélations. Alors, les corrélations, quand on les étudie en statistique, on parle de corrélations univariées. On va chercher les variations d'une valeur qui sont en rapport avec les variations d'une autre valeur. Mais là, on est sur de l'univarié, c'est-à-dire qu'on parle d'une valeur à chaque fois. Mais là, en fait, quand on fait de la donnée, on travaille dans des espaces multidimensionnels, c'est-à-dire que on va prendre une personne, par exemple, donc on va s'intéresser à son genre, son niveau d'études, son niveau social, la profession, ses goûts. Donc tout ça, ça va constituer un profil qui est en fait une espèce de suite de chiffres. Et cette suite de chiffres, on va essayer de lui trouver un équivalent parmi un profil qu'on connaît pour essayer de déduire des informations sur cette personne.
Alors toutes ces informations que l'on récupère et qu'on collecte, où les stocke-t-on ?
Ben, on les stocke sur des ordinateurs, dans des disques durs. On peut les stocker en local, sur un serveur par exemple qui est accessible sur internet, on peut les stocker dans le cloud, enfin, c'est du stockage informatique. Et il y a un moment où on est à une époque où on se pose plus trop la question de savoir où est le stockage physique. On sait qu'on accède à quelque chose, on a de l'information qui est stockée. Quand vous accédez au cloud par exemple, les différents clouds fournis par les différentes plateformes, vous ne savez pas où est le serveur, s'il est aux États-Unis, en Inde, en Chine ou en France. Peu importe, en fait, c'est stocké.
Et donc ces informations, ça représente un poids considérable. Est-ce qu'elles ont aussi une valeur, ces informations ?
Bah, oui, elles ont... Ça représente un poids considérable, hein. J'ai pas les chiffres en tête, mais on sait que sur Internet, on collecte une quantité astronomique de données. Quand on s'intéresse par exemple au nombre de vidéos qui sont soumises tous les jours à YouTube, les éléments qui sont postés sur les réseaux sociaux, donc tout ça, c'est des informations qui pèsent, hein. C'est-à-dire qu'en termes de disques durs, on atteint des chiffres colossaux de l'ordre du zettabyte. Alors le zettabyte, je crois que c'est 10 puissance 12 gigas, donc c'est des milliers de milliards de gigas. Donc pour donner un ordre d'idée, actuellement les capacités d'un disque dur que vous pouvez acheter dans le commerce, c'est de l'ordre d'un terabyte, donc c'est 1000 gigas. Et donc le zettabyte, c'est un milliard de disques durs comme ça. Donc on peut considérer que la quantité de données qui est disponible de par le monde, enfin qui existe, qui est stockée, elle est de l'ordre de, je crois, c'est des dizaines de zettabytes. Et ça ne fait que croître et augmenter régulièrement tous les ans. Donc ça, c'est en ce qui concerne le stockage. Qu'est-ce que vous me demandiez ?
Si ces données avaient représenté une valeur ?
Alors, la valeur, là, c'est un petit peu plus difficile de répondre. En fait, tous les gens qui vont vous vendre des solutions d'analyse de données vont vous dire que vos données ont de la valeur. Après, c'est pas toujours évident, en fait. Je pense qu'on peut trouver plein de choses intéressantes dans les données qu'on collecte sur les activités humaines. Maintenant, est-ce que ça va vous faire vendre plus de produits ? Est-ce que ça va être plus intéressant ? On dit que les données ont de la valeur là. Ça dépend aussi de quelles données on parle, quoi. On a parlé des traces d'activité, mais on peut évoquer par exemple quand vous êtes sur téléphone et que, par exemple, vous utilisez l'analyse vocale, quelque chose qui vous permet, vous parlez dans votre téléphone et ça vous écrit automatiquement un texto, par exemple. Bah, il faut savoir que ce procédé, pour fonctionner, votre voix est envoyée sur les serveurs de Google, par exemple. Et chez Google, ils stockent cette donnée et à partir de cette donnée, ils vont pouvoir faire tourner des algorithmes qui vont leur permettre de mettre au point des intelligences artificielles dont ils vont après vous vendre les résultats, ou peut-être pas à vous, mais à d'autres gens. On peut prendre l'exemple de programmes qui vous permettent de faire de la traduction automatique sur le web. Donc là, vous allez taper un texte. Donc, vous êtes content parce que gratuitement, vous avez la traduction automatique de votre texte. Mais votre texte, le texte que vous tapez, va être stocké. Et même la façon dont vous allez le taper, est-ce que vous allez revenir en arrière, est-ce que vous allez corriger des fautes, ça, c'est des choses qui peuvent derrière nourrir des intelligences artificielles pour les faire apprendre des choses relatives au comportement humain. Quand vous envoyez des photos, par exemple, on connaît tous ces applications où on se prend en photo et on peut se voir quand on était plus jeune ou quand on sera plus vieux. Et bien derrière, ces données de photos, elles sont utilisées pour être revendues à des gens qui vont mettre en place des procédures de détection de visage automatique et qui ont besoin de grandes quantités de visages différents pour entraîner leurs intelligences artificielles. Donc ces données-là, elles ont de la valeur. Après, tout n'a pas systématiquement de valeur. En tout cas, dès que vous utilisez un réseau social type Facebook, Twitter, où là, on va regarder le temps d'attention que vous portez sur certains types de médias, et ben automatiquement, on va se servir de cette information pour vous proposer de la pub qui va être en rapport avec les centres d'intérêt que vous avez développés par le biais de vos capacités d'attention.
Alors on va continuer la discussion sur l'utilisation que l'on peut faire de ces données juste après une pause musicale. On écoute Lexul Dance Machine avec I Don't Mind sur Radio Phoenix. Make yourself at home. So much to tell you now. This town, we're giving it all we got. So good we made it here. So nice to see you back again. Feels right to be with you. Ooh, baby, me and you. I don't mind. Nous écoutions I Don't Mind de Lex Soul Death Machine sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux, dédié aujourd'hui aux data science. En première partie d'émission, nous avons défini le terme de data science et on va essayer de maintenant de voir quelles autres utilisations pratiques peuvent être faites de cette science et des données surtout que l'on collecte. Alors nous sommes toujours en studio avec François Rioux, enseignant-chercheur en informatique au GREIC, le laboratoire de recherche en sciences numériques de l'Université de Caen. Alors on sait quel type de données sont récoltées, mais concrètement, à quoi peuvent-elles servir? On en a un petit peu parlé dans le domaine de l'entreprise, mais elles peuvent aussi servir dans le domaine de la recherche.
Je dirais qu'au niveau de la recherche, nous on collecte assez peu de données, c'est essentiellement les possesseurs de données qui viennent nous voir avec des problématiques. On collecte assez peu de données, ça peut nous arriver de faire des sondages ou de mettre en place des plateformes pour récupérer des comportements humains, mais nous on se pose des questions plutôt fondamentales sur la façon de traiter les données, comment est-ce qu'on peut en tirer de l'information, comment est-ce qu'on peut les traiter, comment est-ce qu'on peut les exploiter. Les données du public qui sont collectées, ce sont essentiellement au profit des plateformes des GAFAM.
Google, Amazon, voilà. Facebook, Apple et Microsoft.
C'est ça. Donc, par le biais des réseaux sociaux ou par le biais des services qui sont mis en place, que ce soit... Bon, Google fournit énormément de services qui impactent fortement le quotidien. Il y a Amazon qui, à chaque fois que vous sélectionnez un produit, vous propose des produits connexes. Donc là, c'est en fonction de ce que les utilisateurs ont déjà acheté, ont acheté ensemble, par exemple. D'ailleurs, ils vous le disent explicitement, les utilisateurs qui ont acheté ce produit ont aussi acheté celui-là. Quand vous regardez des films sur Netflix ou aussi sur Amazon, on vous propose d'autres films parce que ces films ont été regardés par des utilisateurs qui ont regardé les mêmes films que vous et qui en ont regardé d'autres. Enfin, tous ces systèmes de recommandation, en fait, ils fonctionnent sur le principe que j'ai énoncé tout à l'heure, les amis de mes amis sont mes amis. Donc quand on connaît les goûts d'une personne et qu'on sait qu'une personne a une partie de goût en commun, on peut lui proposer d'autres éléments dont on pense qu'ils vont lui plaire.
Alors au premier abord, on peut penser que c'est plutôt positif, puisque c'est censé être dans le bien du consommateur, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger justement à la récupération de ces données? Là, on parlait par exemple de Netflix qui extrait des données sur ses utilisateurs de sa plateforme pour savoir ce qui intéresse les utilisateurs, donc recommander des séries, mais est-ce que justement cela ne va pas créer un phénomène d'enfermement, de bulles,
oui,
de filtre?
Ouais, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre, l'enfermement, c'est-à-dire qu'on finit, moi je le vois avec ma fille, tout le monde finit par regarder Baby Shark sur YouTube, quoi, parce que c'est le truc que tous les gamins ont regardé, donc l'algorithme de recommandation, quand il voit que vous êtes un enfant, il va finir par vous proposer Baby Shark. Donc on finit tous par regarder à peu près les mêmes choses, les mêmes contenus, et il est difficile de sortir de cette bulle de filtre. Enfin, il faut de la volonté. C'est un petit peu la même chose quand vous êtes sur Facebook. Hein. En général, les amis que vous avez, enfin, je parle de Facebook ou Twitter, hein, ou n'importe quel réseau social, les gens que vous allez suivre, ils partagent à peu près les mêmes goûts que vous. Donc, c'est pas en général chez eux que vous allez trouver de la nouveauté. Mmh. Et il faut arriver à s'extraire de ces bulles de filtre si on
veut. Est-ce qu'on peut y échapper? Au phénomène de bulle de filtre et au fait qu'on n'est plus propriétaire de nos données.
Vous posez plusieurs questions. Alors, je pense que c'est très très difficile d'échapper aux bulles de filtre. Et puis, en plus, les concepteurs d'algorithmes n'arrivent pas à maîtriser les contenus qui sont proposés. Parce que finalement, ces algorithmes, ils sont entraînés pour maximiser... Un retour sur investissement, en fait. Donc, pour maximiser un nombre de vues. Donc, si l'algorithme vous propose des choses et puis que vous les regardez et que vous passez du temps dessus et qu'il peut détecter que vous passez du temps dessus, eh ben, il va continuer à suivre sa pente, en fait. C'est le principe de ces plateformes. Donc, si vous voulez échapper à ça, il faut aller sur d'autres plateformes qui n'ont pas ces systèmes-là, mais ces plateformes, c'est pas non plus leur but, c'est vraiment de maximiser votre attention. Donc elles vont mettre en œuvre des algorithmes pour maximiser votre attention et enfin c'est le principe même de ces plateformes. Donc si vous voulez échapper aux bulles de filtre, il faut échapper à ces plateformes.
Est-ce qu'il y a des lois qui régulent l'utilisation que l'on peut faire des données récoltées ?
Bon, il y a toute une nouvelle réglementation européenne là récemment dont je ne suis pas du tout spécialiste. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle la RGPD. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Je pense sur le consentement, par exemple sur l'utilisation des cookies. Mais je vous avoue que je ne suis pas spécialiste, mais a priori, je ne pense pas qu'on puisse empêcher parce que les gens, quand ils utilisent un service, ils signent une charte ou des conditions générales d'utilisation. S'ils ne signent pas cette charte et s'ils ne sont pas d'accord avec cette charte, ils sont obligés d'aller voir ailleurs. Donc finalement, les gens donnent leur consentement, même si ce n'est pas toujours un consentement éclairé. Et puis s'ils ne prennent pas le temps de lire les conditions d'autorisation, mais... De toute façon, c'est aussi le système du gendarme et du voleur, c'est-à-dire que on met en place de plus en plus de barrières au niveau légal, et puis les voleurs trouvent des contournements. Hein, donc, je ne crois pas que ce soit la solution au problème, et je ne pense pas que les gens qui utilisent, enfin qui exploitent la donnée sur les plateformes se posent vraiment ces questions-là, parce que c'est leur business, quoi.
Alors tout à l'heure, vous avez abordé la notion d'algorithme. Justement, comment traiter des données en très grande quantité ? Quel défi informatique ça représente ?
Ça représente des défis de stockage, des défis de temps de calcul. Moi, je dirais que c'est essentiellement de la... C'est aussi ce qui fait la nature de ce métier, c'est que il faut pas... Il y a des données qui, a priori, sont pas intéressantes.
Faut savoir sélectionner les données.
Voilà, faut savoir sélectionner et puis il faut savoir ce qu'on cherche à apprendre et ce qu'on cherche à en faire.
Donc déjà, ça représente une première étape dans le traitement de ces données.
Voilà. Après, il y a des questions de volume qui peuvent poser vraiment de gros problèmes en termes de stockage, de disponibilité, d'accès à l'information. Donc ça, c'est toute la partie de gestion de données. Parce que vous parliez tout à l'heure du data scientist, mais il y a plusieurs métiers finalement dans une seule appellation. Il y a des gens qui vont être plutôt spécialistes de la collecte de données, d'autres de la mise en forme de données, des gens qui vont plutôt travailler en bout de chaîne sur la mise au point d'algorithmes, des gens qui vont être spécialisés après sur l'exploitation des résultats, sur la visualisation des résultats. Donc c'est un métier qui est assez complet et complexe. Enfin, il y a pas mal de facettes.
Et par exemple, parmi ces facettes, il y a vraiment l'organisation des données et il y a une discipline autour de cela qui s'appelle l'ingénierie des connaissances.
Comment est-ce qu'on peut formaliser des connaissances et comment est-ce qu'on peut extraire des connaissances à partir de données ? Par exemple, vous prenez une page Wikipédia. Dans les pages Wikipédia, si vous prenez par exemple une page sur un personnage public, on va vous dire il est né en telle année, à tel endroit, il est de telle nationalité. Donc ça, c'est des choses qui sont écrites sous forme textuelle. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont avoir besoin, eux, de générer ça sous forme de tableau, par exemple. Depuis quelques années maintenant, quand vous faites une recherche sur un personnage public dans Google, vous voyez apparaître sur la droite, sur la colonne de droite, un petit cartouche avec la photo de la personne, son âge, sa nationalité, une espèce de fiche signalétique. Et ça, cette fiche signalétique, elle a été conçue à partir de l'extraction de connaissances depuis le texte. Donc, cette ingénierie des connaissances, c'est comment est-ce qu'on peut manipuler ces connaissances, comment est-ce qu'on peut les extraire, comment est-ce qu'on peut les valoriser, comment est-ce qu'on peut les mettre en forme, comment est-ce qu'on peut les utiliser.
Alors, il y a aussi un terme qu'on n'a pas encore employé, mais qui est souvent employé quand on parle de data science, c'est le big data. De quoi parle-t-on quand on parle de big data ?
Ouais, le big data, comme son nom l'indique, c'est lié à la volumétrie. Alors, il y a des gens qui parlent de 4 V. Alors, je ne sais pas si je vais me rappeler des V en question, mais il y a volume, vélocité... Mais en gros, c'est toutes les problématiques qui sont liées au volume des données. C'est-à-dire, imaginez Facebook, par exemple, le volume de données qu'ils ont à traiter de la part de leurs utilisateurs. Donc ça pose des problèmes spécifiques qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années, par exemple. Donc le big data, c'est la capacité à traiter des gros volumes d'informations et d'en tirer des connaissances. Et puis les connaissances dont je parlais tout à l'heure, les rapprochements, c'est bien joli d'avoir ces connaissances, mais il faut derrière les exploiter et puis en tirer quelque chose. C'est un petit peu toutes ces problématiques-là, le big data.
Alors j'ai vu qu'il y avait un baromètre qui s'appelle Data Never Sleeps, qui a noté que chaque seconde, il y avait 1,7 MO de données qui sont générées dans le monde. C'est
Non mais MO, ça me paraît très très peu.
Donc ce serait plus élevé.
Ah oui, bah oui. Là encore, je vais vous donner des ordres de grandeur, mais... vous prenez une voiture autonome, donc qui est bardée de capteurs, hein, de caméras, de capteurs de position, de GPS. Une voiture autonome, ça génère 10 terabytes par jour.
Oui, donc c'est énorme.
Par jour.
Est-ce que toutes ces données sont vraiment utiles ?
Elles sont utiles pour la mise au point de la voiture. Après, elles ne vont pas être utiles sur la durée du cycle de vie. Mais non, un MO, c'est la disquette. Moi, je suis de l'ancienne génération. Les disquettes, c'était 1 méga. Un CD, c'est 700 mégas. Donc, vous voyez, une minute de son, c'est 5 mégas. Une minute de son. Donc, en vidéo, il faut facilement multiplier par 10 pour avoir une idée de ce que pèse une vidéo. Donc, si vous imaginez tous les utilisateurs, ce qu'ils soumettent sur TikTok, sur YouTube par jour, on est bien au-delà du méga. On est plutôt de l'ordre du téra par seconde. Hein. Non, les chiffres sont beaucoup plus élevés que ça, quoi.
Alors, je vous ai présenté comme membre du GREC, le laboratoire de recherche en sciences numériques de Caen. Quelles sont les recherches que vous menez au sein de ce laboratoire en lien avec les data sciences ?
Moi, je fais partie d'une équipe du GREC qui s'intéresse justement à la data science, mais le GREC ne fait pas que ces recherches-là. Globalement, on s'intéresse à toutes les problématiques d'exploitation de la donnée et de satisfaction des experts qu'ils ont à manipuler ces données. Donc ça peut être des données relatives aux molécules chimiques, ça peut être des données relatives à du sport, hein, les positions des joueurs qui évoluent au fil du temps, ça peut être des données relatives à ce qu'on peut trouver sur Internet, comment exploiter ces données. Donc c'est un petit peu, nous, dans notre équipe, on est spécialisé dans l'appréhension de données qui ont des formes peu conventionnelles. Disons que il y a une vingtaine d'années, on a commencé à traiter ce qu'on appelle le panier du consommateur. Donc c'est quand vous allez au supermarché, c'est votre ticket de caisse, quoi. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information à partir de ce que vous avez acheté? Ça, c'est des données qu'on appelle des données transactionnelles. On fait des transactions et votre ticket de caisse est constitué d'une suite de transactions. Et puis, on a commencé à s'intéresser. Après, par exemple, si je reprends toujours l'exemple du panier du consommateur, plutôt que s'intéresser au ticket de caisse, on s'intéresse à l'ordre dans lequel vous avez acheté les produits. Et là, on se dit, peut-être que vous avez fait un parcours dans le magasin et qu'on peut exploiter les données relatives à ce parcours et soit vous faciliter la vie pour mettre ensemble les produits qui sont achetés fréquemment, soit vous la compliquez en éloignant ces produits, en espérant que justement vous allez parcourir un grand espace dans le magasin et que sur votre chemin, vous allez acheter des produits. Après, on peut s'intéresser à la position géographique des produits dans le magasin et on peut s'intéresser au déplacement des utilisateurs. Donc, c'est toutes ces données qu'il faut analyser, qui revêtent différentes formes. Ça peut être des listes, des séquences, des graphes.
Et justement, est-ce que selon vous, pour terminer cet entretien, est-ce que selon vous, les data sciences tendent à être utilisés de plus en plus et dans de plus en plus de domaines?
Oui, comme on le disait au début, les les données valent de l'or, entre guillemets, c'est-à-dire que si on sait bien exploiter les données, je pense que tout chef d'entreprise, toute personne à des fonctions de direction, doit s'intéresser aux données qui concernent ses clients, ses produits, les cas d'utilisation. Qu'on soit sur des applications informatiques ou pas, hein, je pense que quand vous vendez des produits, ça peut être très intéressant de savoir à qui vous l'avez vendu, dans quelles conditions et pourquoi. Donc, oui, je pense que ces données ont beaucoup de valeur.
Merci beaucoup, François Rioux, d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix pour
Avec
parler des data science. Bonne journée.
Bonne journée.
Et tout de suite, place à l'agenda scientifique de la semaine. Ce mardi 10 mai, l'Université de Caen, la Corpo Sciences et la BU Rosalind Franklin co-organisent une conférence sur la physique intitulée « Des ions et des glaces pour l'astrophysique ». La conférence sera animée par Philippe Bauduche, enseignant-chercheur au CIMAP, le centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique. Rendez-vous aujourd'hui à la bibliothèque universitaire de 17h à 18h pour assister à cet événement qui est gratuit et qui sera également diffusé en direct. Le lien et les infos sont à retrouver sur l'agenda de unicamp.fr. Juste après cette conférence, l'Université de Caen vous propose d'assister à une soirée cinéma autour du film The Phaser, du réalisateur Florian Zeller. Le synopsis gravite autour de la vie d'Anthony, âgé de 80 ans, qui va être rattrapé par la maladie d'Alzheimer, alors que sa fille Anne tente désespérément de l'aider et de lui faire entendre raison. Quelque chose semble se tramer autour de lui, comme si le monde par instant avait cessé d'être logique. Égaré dans un labyrinthe de questions sans réponse, Anthony tente en vain de comprendre ce qui se passe autour de lui. Une présentation du CERN, le Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie, sera faite avant la diffusion, en présence de Christophe Rocher, professeur des universités et directeur du CERN, Patrick Dallemagne, professeur des universités, et Jean-Pierre Jourdan, pharmacien des hôpitaux et enseignant-chercheur. Puis à un instant, débat public et chercheur sera organisé après la diffusion. Rendez-vous ce soir de 20h à 22h45 à l'amphi de la MRSH pour assister à ce ciné-débat autour de la maladie d'Alzheimer. L'entrée est au prix de 5,50€ ou 4,50€ pour le tarif réduit.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur les data science, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm. À 13h, vous trouverez Edgar pour la Méridienne. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. Et merci à Violette qui m'a assisté à la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Violette sur Radio Phoenix.